viendra, le vent soufflera, mais sa maison tiendra bon. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en pratique ? Ça veut dire accepter de changer d'avis. Ça veut dire accepter de changer de mode de vie. Choisir volontairement de délaisser nos propres idées, nos propres mentalités, nos propres façons de faire. Dans certains domaines très particuliers, on va changer nos manières de vivre. Alors pour chacun et chacune d'entre nous, ça peut être un vrai plaisir ou une vraie difficulté. Imaginez que vous souhaitiez faire un régime. Je ne dis pas que vous en avez besoin, je dis imaginez que vous souhaitiez faire un régime. Vous achetez le meilleur livre à la mode ou du moment et vous le lisez. Vous en parlez avec votre médecin, avec votre meilleur ami, et tout le monde autour de vous vous félicite d'avoir acheté le bon bouquin. Peut-être même vous irez à des réunions le soir pour écouter des explications ou des témoignages. Bravo ! Mais est-ce que ça suffit ? J'ai peur que nous, les chrétiens, on réponde oui à cette question. Ben non, ça ne suffit pas. Il faudra le mettre en pratique, ce livre, ce régime. Changer sa manière de penser l'alimentation, changer sa manière de se nourrir, limiter le nombre de calories, sans pour autant être affamé, et puis modifier nos habitudes de vie pour bouger davantage, se dépenser plus. C'est uniquement à ce prix que ça va marcher. C'est la même question qui se pose avec la Bible. Vas-tu la mettre en pratique ? Alors vous allez tous me répondre oui, car vous êtes des bons chrétiens qui connaissez les bonnes réponses qui conviennent. Mais la vraie question, c'est est-ce que ton mode de vie, dans les détails de ta vie, comme dans les grandes choses, les grandes orientations, est-ce que tout ça a été transformé par la Bible qui contient la sagesse de la vie ? Alors le livre des Proverbes, il est là pour poser exactement la même question. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il est très concret. Il y a très peu de théories, mais au contraire, il fait appel à une foule de personnages très divers. Chacun est là pour nous apprendre quelque chose. Il y a pêle-mêle le roi, le cultivateur, le patron et l'ouvrier, un jeune homme, son père et sa mère, une épouse de valeur, mais aussi une épouse acariâtre. Il y a énormément d'animaux, la fourmi, la sauterelle, le lézard, des serpents, un cheval et un âne, des lions et des chiens. Il y a la prostituée et la courtisane, mais aussi la fiancée et la femme de ta jeunesse. Il y a le fou ou l'insensé qui pense qu'il n'y a pas Dieu ou qui se comporte comme s'il n'y en avait pas. Et puis il y a le sage, celui qui cherche à comprendre Dieu et qui met en action ses conseils. Il y a l'ivrogne, il y a l'homme méchant, l'homme cupide, il y a le pauvre et l'émigré, l'orphelin et le mendiant. Il y a des arbres de vie, il y a des rayons de miel. Il y a l'ami fidèle, et on y trouve aussi le frère en colère. Tous ces personnages sont cités pour nous apprendre la sagesse au lecteur. Et pour certains, ce sont des exemples qui sont là, qui sont donnés pour qu'on essaie de leur ressembler. Et au contraire, d'autres sont donnés comme de mauvais exemples. Et l'auteur du livre nous dit, si tu ressembles aux mauvais exemples, fais quelque chose. Prends des initiatives, mets des choses en action dans ta vie pour arrêter de ressembler aux mauvais exemples et commencer à ressembler aux bons. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un de ces personnages. C'est un personnage important dans le livre des Proverbes, car il est dans le top 10 parmi les 10 premiers séquences traduction qui sont cités. Ce personnage revient à 17 reprises. 17 fois, il est cité en exemple, ou plutôt en contre-exemple, en exemple à ne pas suivre. Qui est-il ? Avez-vous une idée ? Bon, vous avez tout trouvé, bravo. J'ai terminé, merci. Oui, alors, effectivement, c'est le paresseux. Ce gars-là, il ne fait rien. Ou vraiment pas grand-chose. Enfin, si, ce qu'il fait de mieux, c'est de rêvasser. Il pense que d'un coup de baguette magique, son destin va s'améliorer. Un jour, ma vie va changer. Un jour, j'obtiendrai ce que je veux. Un jour, Mais en fait, il ne fait rien. Il ne bouge pas le petit doigt. 17 fois, le livre des Proverbes en parle. Alors, paresseux, c'est un mot qui est devenu complètement politiquement incorrect de nos jours. Ce mot-là n'est plus du tout apprécié. Et au train où ça va dans quelques années, je pense même qu'il sera sur une liste de mots interdits et on prendra une amende si on le dit. Nous sommes entrés dans la civilisation et la société des loisirs, de l'exaltation du temps libre. Le travail, l'activité, le projet a perdu sa valeur. Alors il y a même un homme politique il y a quelques années qui a proposé qu'on arrête tous de travailler et puis que l'État nous verse une rente. C'est sympa comme idée. Alors voyons comment le livre des Proverbes décrit ce personnage. Dès le chapitre 6, il nous dit « Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes couché en te croisant les bras. » Un peu plus loin, il dit « Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, c'est ceux qui travaillent dur qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. » Le paresseux ne veut pas labourer au bon moment. Et à la récolte, il cherche, il ne trouve rien. Le livre des Proverbes affirme que beaucoup d'entre nous, nous courons le risque de devenir paresseux. Alors selon Bill Hybels, le pasteur et fondateur de Willow Creek à Chicago, il y a trois étapes où nous pourrions être concernés. La première étape, c'est de remettre à plus tard. Chaque fois qu'une personne esquive une responsabilité en se disant « Bon, ça, je le ferai plus tard », il agit en paresseux, selon les proverbes. Combien de fois tu te dis « Bon, allez, ça, je le ferai demain. En attendant, j'aimerais regarder une petite série. » Et puis tu remets à demain ce qui est essentiel. Ça peut être un temps de prière pour ton enfant ou ton collègue de travail. Bon, je prierai pour lui demain. Tu as 10 minutes devant toi et tu pourrais lire un petit passage de la Bible. Ou alors reprendre la lecture de la Bible quotidienne que tu as abandonnée il y a 3 mois. Bon, je le ferai demain. À quoi bon commencer aujourd'hui, ce que j'ai déjà arrêté il y a 3 mois. Ton ami a besoin de soutien et ça lui ferait vraiment du bien que tu lui passes un petit coup de fil pour lui dire que tu penses à lui. Bon, je l'appellerai demain. Je vais appeler Germaine pour lui raconter un petit ragoût, plutôt. Ton fils a besoin de ton aide pour ses devoirs de maths. Bon, on verra ce week-end, hein, si on a le temps. Etc., etc. Remettre à plus tard, c'est tellement facile. Mais au bout du compte, les choses s'accumulent. On ne sait plus par quel bout les prendre. C'est décourageant. Et puis on s'installe dans un cercle vicieux. Au niveau de ta vie, ça peut être catastrophique. Au niveau d'une ville aussi, c'est ce qui s'était passé à New York. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cet homme qui s'appelle d'ailleurs Rudolph Giuliani, qui était maire de New York, et de William Bruton, le chef de la police. Ils ont réussi à inverser la courbe de la criminalité dans la ville de New York. Comment ? En mettant en pratique la théorie du carreau cassé. C'est quoi ça ? Dès qu'un carreau était cassé dans la ville, ils ont demandé aux agents municipaux d'aller le changer immédiatement. Non, on n'attend pas quelques jours ou la semaine prochaine ou on le fera plus tard. Non, immédiatement. Alors au début, les délinquants ont trouvé ça très rigolo parce que ça leur permettait de casser les carreaux 2 fois par jour. Une fois le matin, entre midi et 2, ils étaient changés, une fois l'après-midi. Puis après, ils se sont lassés. Et le remplacement immédiat des carreaux a eu un effet qui s'est propagé dans toute la ville. Dès qu'un carreau était cassé, il était immédiatement changé. Les New-Yorkais ont compris que la municipalité était active et qu'elle mettait en valeur la préservation de la qualité de la vie. Et la qualité de la vie s'est améliorée. Alors il y a eu beaucoup d'autres actions concrètes que le maire et le chef de la police ont mis en place, et c'est l'ensemble qui a donné des fruits. Mais dans chacune de ces actions, le maire a donné la consigne: arrêtez de remettre à demain. Faites-le tout de suite. Alors, je ne sais pas si c'est la sagesse des proverbes qui avait inspiré M. Giuliani, qui était chrétien, mais ce principe a été efficace pour sauver cette ville. Il était maire entre 1994 et 2001. C'est quelque chose qui a transformé la ville en profondeur et qui dure encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est un exemple qui est encore étudié dans les grandes universités, qui est cité en exemple. Ce principe de ne pas remettre à plus tard, comme nous l'enseignent des proverbes, c'est valable dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans la vie de tes enfants, dans ton travail. Et le signal, c'est non. Aujourd'hui, ce que je peux faire, ça a de la valeur. La deuxième étape qui mène sur le chemin bourbeux de la paresse, ce sont les fausses excuses. Le paresseux, de Proverbe 26-13, a trouvé une bonne excuse pour ne pas mettre le nez dehors. « Oh là là, il y a un lion !» Bon, peut-être, s'il y a un lion, tu appelles le chasseur ou le gardien du zoo qui vient de le récupérer. Mais en fait, il se trouve des fausses excuses. Au lieu de multiplier les initiatives, il va multiplier les faux prétextes pour ne rien faire. Pensez à votre vie. Est-ce qu'elle manque de performance, d'assiduité, de discipline, de résultats positifs? Est-ce que vous justifiez tous ces points par un grand nombre d'excuses? Le livre des Proverbes donne un avertissement clair. Plus vous remettrez à plus tard, plus vous trouvez des excuses, et plus ça va empirer. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Là encore, bonne excuse. On laboure au mois de novembre. Au mois de novembre, ben, il fait froid. Mais c'est indispensable de labourer à cette période pour pouvoir semer si on veut récolter en mai ou en juin. Mais il fait trop froid pour aller dehors pour notre paresseux. Alors c'est plein d'humour parce qu'on imagine, à la moisson, il va quand même voir son champ. Et puis il cherche ses épis de blé, mais il n'en trouve pas. Il n'est pas un peu neuneux? Non, il est paresseux. Je vous décode. Tu t'étonnes du manque de fruits dans ta vie? Est-ce que tu as fait les efforts nécessaires pour qu'ils se produisent? Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve fatigant de ramener à sa bouche. Là encore, c'est plein d'humour. Il n'a même pas la force d'actionner son bras. Il va crever de faim. Un de mes préférés. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux dans son lit. C'est génial cette image. Voilà. La porte, elle a beau tourner, elle reste toujours au même endroit. Le paresseux aussi. Alors vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive à Loïc ce matin? La soupe d'hier soir était trop poivrée. Bon, la plupart des gens ne sont pas paresseux. Ils ne remettent pas à plus tard et ne cherchent pas des fausses excuses. Et certainement, vous n'en faites pas partie. Certainement, même vous dites, moi je suis un véritable bourreau de travail. Je m'arrête jamais de l'aube à la nuit. J'ai vraiment trop d'activité. Si seulement je pouvais de temps en temps remettre quelque chose à plus tard ou trouver des excuses pour ne rien faire. Eh bien tant mieux, et bravo. Attention, la suractivité n'est pas bonne non plus. C'est parfois une manière de cacher ce qu'on pourrait appeler la paresse sélective. Qu'est-ce que c'est que la paresse sélective? C'est une maladie très répandue qui se caractérise par des domaines très très délimités dans notre vie où la paresse règne en maître, alors que le reste de la vie est en parfaite activité. Prenons des exemples. Prenons l'exemple d'un homme marié qui réussit sa carrière, ses activités, il est bien vu dans la société, mais il ne comble absolument pas les besoins affectifs de son épouse et de ses enfants. Paresse sélective. Cette mère de famille qui réussit le double mérite de poursuivre sa carrière et de tenir sa maison à bout de bras, mais qui néglige sa propre vie spirituelle, personnelle. Paresse sélective. Ceux qui dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent et qui prétendent qu'à l'avenir, bon, bah, ils feront un budget, mais ils ne le font jamais. Paresse sélective. Les chrétiens qui hochent la tête lorsque le pasteur les incite à s'engager plus profondément avec Dieu, mais qui reprennent leurs vieilles habitudes le lundi matin. Paresse sélective. La paresse sélective, c'est une maladie redoutable, car certains domaines de notre vie nous semblent tellement bons que nous nous persuadons que nous n'avons pas besoin d'aller voir les autres domaines. Et qu'est-ce que tu veux? Que je sois parfait dans tous les domaines. Je prends des initiatives dans 9 domaines sur 10 dans ma vie. C'est pas suffisant? Alors, si vous voulez faire partie du club des 9 sur 10, c'est suffisant. Mais est-ce que tu as le droit d'être paresseux dans le 10e parce que tu ne l'es pas dans les 9 autres? 9 sur 10, ce n'est pas un si mauvais score. Mais est-ce suffisant pour laisser en friche le 10e domaine de ta vie? Alors, face à la paresse insidieuse de nos vies, comment réagir? Le livre des Proverbes répond aussi à la question. Si tu te sens un peu concerné, comme moi, ce matin, rappelle-toi que ton Père Céleste veut t'éduquer pour te faire grandir. Il ne fait pas uniquement un diagnostic pour te mettre mal à l'aise. Non, ça c'est la première étape. Ton Père Céleste veut te proposer une autre manière de faire, un autre mode de vie, maintenant. Ce qui intéresse notre Père Céleste, c'est que nous ayons une vie réussie. Alors voyons comment le livre des Proverbes, qu'est-ce qu'il apporte comme solution? Le rédacteur des Proverbes donne un exemple à suivre. Tu veux prendre des cours pour améliorer ta vie? Alors regarde la fourmi, cette humble et minuscule petite créature. Dans sa petite tête, il n'y a de la place que pour 2 ou 3 neurones. Mais elle connaît des choses que tu as besoin d'apprendre. Son mode de vie est sage et mérite que tu t'en inspires. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Ça, c'est le premier point. Si toi, tu as besoin d'une motivation extérieure, qu'il y ait quelqu'un sur ton dos pour te surveiller ou pour te forcer, bah, tu as un sérieux problème. La fourmi, elle n'a pas besoin. Sa motivation, elle la trouve en elle-même. Elle n'a pas besoin qu'on la force ou qu'on la menace. Non, elle agit intelligemment de son plein gré. Elle travaille pour elle. Elle n'est pas égoïste pour autant, parce qu'elle travaille aussi pour la fourmilière. Deuxième sujet, la fourmi, elle garde en mémoire son objectif. Pour elle, c'est nourriture, nourriture, nourriture. Elle sait que si elle n'engrange pas des provisions pendant la belle saison, elle va mourir pendant l'hiver. C'est vital. La seconde leçon, c'est donc la prévoyance. La fourmi est prévoyante. Alors, La Fontaine a rajouté une cigale dans sa fable pour mieux faire ressortir la comparaison. La fourmi sait que, pour pouvoir tenir en hiver et pour avoir des provisions, il faut qu'elle travaille dur en été. Et elle se réjouit d'avance de ces bonnes bouchées délicieuses qu'elle va ingérer avec ses mandibules. Et puis, elle connaît aussi les tiraillements du ventre creux et elle veut absolument l'éviter. Et troisième sujet, la fourmi n'attend pas. Elle se met au travail dès aujourd'hui. Elle ne trouve pas d'excuses. Avec sa petite voix, elle couine. « Allez, je m'y mets. Je me mets au travail. Tout de suite. » Je crois que vous avez l'idée principale pour ce matin. Ai-je besoin de vous l'expliquer davantage? Je ne crois pas. Je parlais tout à l'heure de Bill Hybels. Il cite 5 domaines de notre vie sur lesquels nous ferions bien de vérifier si on n'a pas un petit peu de paresse sélective, si on n'est pas dans le club du 9 sur 10. Je vous les propose de les passer rapidement en revue. En écoutant dans ces 5 domaines, si tu te dis, si tu entends la voix de l'Esprit-Saint te dire « Bon, ben bravo dans ce domaine, c'est bien, tu prends suffisamment d'initiative, persévère et continue. Ben, » si tu entends cette petite voix, détends-toi en attendant le domaine d'après. Mais peut-être que le Saint-Esprit va te dire « Tu sais, dans ce domaine, tu n'es pas au point. Ça te concerne. Il est grand temps de te secouer, de prendre des résolutions et de les mettre en œuvre dans ta vie. Lève-toi et avance. N'attends plus un seul instant. » Alors le premier domaine, c'est le domaine des relations. La Bible nous invite à ce qu'elles soient inspirées, nos relations, par un cœur rempli d'amour. Je ne vous apprends rien. C'est valable dans notre famille, à l'école, au travail, dans l'église, partout. Et c'est souvent dans le cadre familial que les actions aimantes sont les plus appréciées, les plus nécessaires. mais aussi les plus difficiles. C'est valable aussi dans notre famille, où nous voulons vivre comme une, dans notre assemblée, où nous voulons vivre comme une famille. Même avec les meilleures intentions, au cours des événements tumultueux de la vie, nous avons tendance à nous heurter et nous froisser mutuellement. Les petites blessures infligées à notre ego ou à notre âme nous font souffrir et nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes et à éteindre notre amour. Et c'est là que la paresse sélective devient un danger. Si nous ne faisons rien tout de suite, le fossé va s'élargir, le ressentiment va grandir. Plus on attend, plus ça devient compliqué. Si on cède à la tentation de la paresse sélective dans les relations, alors on va baisser les bras. Alors on va éviter de donner le coup de fil. On va éviter de faire le premier pas. Et au lieu de décider de nous réconcilier et d'approfondir une relation, nous fermons les yeux et nous sombrons dans le sommeil destructeur du paresseux sélectif. Non, prenons l'initiative. Allons voir la personne pour établir la relation. C'est pas sûr que ça marche du premier coup, mais au moins, vous aurez la satisfaction d'avoir pris l'initiative. Deuxième domaine, notre travail. L'homme sage des Proverbes et globalement toute la Bible a une vision positive du travail. C'est un domaine d'épanouissement pour la vie. C'est la joie de l'activité humaine. Le travail reste le domaine par excellence pour le succès financier, pour la puissance constructive, pour une manifestation de la créativité. C'est un bienfait pour chacun. Paul, l'apôtre, fait un pas de plus et nous dit dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Travaillez de tout votre cœur au bureau, à l'usine, à la maison, en classe. Mais il est complètement ouf, ce Paul. Paul nous encourage à donner du sens à ce que nous faisons, à nous investir de tout notre cœur dans notre travail, comme si c'était Dieu notre patron ou notre professeur. Nous avons l'habitude que c'est Dieu qui pourvoit à notre besoin. Et nous ne voudrions pas que ce soit lui notre patron. Alors je sais bien que la vie est difficile, que gagner son pain, ce n'est pas sans effort. C'est vrai pour chacun de nous. Et dans notre travail, nous pouvons facilement céder à la paresse sélective, remettre à plus tard, trouver des bonnes excuses. Et notre travail, il ne se fera jamais tout seul. Dieu nous invite à prendre de nouvelles initiatives et de travailler de tout notre cœur comme si c'était pour lui. Alors, troisième domaine. Ah, j'ai un peu ingéré dans votre vie privée. Désolé. Et souvent, on ne tient pas compte de la question importante de notre forme physique. Alors, je ne parle pas de la santé. Chacun, on a une santé qui peut être bonne ou dégradée. Mais la forme physique, c'est encore autre chose. Dans notre pays où les soins sont pratiquement gratuits, on ne fait plus tellement attention à ça. Là encore, l'apôtre Paul nous attend au tournant dans Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu ? Glorifiez donc Dieu dans vos corps. C'est clair, non ? J'ai l'impression que nous, les chrétiens, on pense qu'il n'y a que notre être intérieur, notre âme, qui a été rachetée à grand prix. Non, mais notre corps aussi. Tout entier, lui aussi, notre corps est racheté et aimé par le Seigneur. Et il attend de nous que nous en prenions soin. D'une manière mystique et un peu incompréhensible, le Saint-Esprit réside dans notre corps. Honorer Dieu avec notre corps, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que nous faisons attention aux endroits où nous l'emmenons, à qui nous le laissons toucher, à la façon dont nous en prenons soin. Ça veut dire que nous tenons notre corps éloigné des mauvaises choses, nous le préservons des gens ou des situations abusives et nous faisons tout notre possible pour rester en bonne santé, pour rester pur sur tous les plans. Adieu la nicotine, les excès d'alcool, la caféine, toute autre drogue. On peut parler du manque de sommeil, la sédentarité, la malbouffe, etc. Honorer Dieu, c'est faire de l'exercice. C'est pas forcément être sportif ou faire des activités compulsives, etc. Les médecins disent que 30 minutes de marche par jour, ça suffit. C'est à la portée de tous. Notre vie confortable et pleine de technologies nous évite tout effort, tout exercice physique. Nous n'avons même plus besoin de nous lever pour changer la chaîne de la télé. Prenons soin de nos corps, de notre forme physique, comme un bien précieux. Alors j'avance, parce que la pendule avance plus vite que moi. Le domaine financier. Nous pouvons faire aussi preuve de paresse dans ce domaine, dans la manière de gérer notre argent. Qu'on en ait peu ou qu'on en ait beaucoup. Certaines personnes ont des ressources si limitées qu'elles se disent « c'est même pas la peine de faire un budget ». Alors elles laissent filer quelques euros par-ci, quelques euros par-là, et puis à la fin du mois, ben, on passe vite dans le rouge. La seule façon de gérer cette situation, c'est de faire son budget et de s'y tenir. A l'inverse, les gens qui ont de l'argent plein les poches s'imaginent avoir nullement besoin de gérer leur fortune. Ils n'ont jamais dû se tracasser pour savoir comment joindre les deux bouts. Alors pourquoi s'inquiéter, se charger de gérer son argent ? Or, pour Dieu, la façon de gérer notre argent est très importante, qu'on en ait peu ou qu'on en ait beaucoup. Dieu y voit une implication de notre maturité personnelle et notre obéissance à Jésus-Christ. Dieu nous appelle à bien gérer notre argent pour en avoir suffisamment pour nous, pour nos enfants, pour notre entourage, pour en donner aux nécessiteux et pour financer l'Église. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être nonchalants dans ce domaine. L'enjeu est trop important. À ceux qui ont peu de moyens, Jésus dit, à celui qui est fidèle dans les petites choses, et à ceux qui ont suffisamment d'argent, Paul encourage à être généreux et concerné. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. Porte-monnaie vide. Notre façon de gérer l'argent compte pour Dieu, compte pour nos enfants, notre entourage, pour les pauvres et pour l'Église. Et Dieu attend de nous une sagesse dans notre gestion. Alors, dernier domaine que je voudrais aborder ce matin, c'est notre relation avec Dieu. Nous savons tous que Dieu aime passer du temps avec nous. C'est ce qu'il désire le plus. Mais la plupart d'entre nous, nous avons une vie à 100 km/h, remplie d'activités, de travail, de contraintes, d'occupations. Nous donnons notre temps, notre énergie, notre créativité, notre attention à tout un tas de choses. Mais est-ce que nous oublions Dieu ? Ou est-ce que nous prenons vraiment suffisamment de temps avec lui ? Là encore, la paresse sélective peut nous empêcher d'être disciplinés dans la réflexion personnelle, dans la prière, dans l'étude de la Bible, dans la lecture d'ouvrages chrétiens édifiants, dans la communion fraternelle, dans l'engagement auprès des autres. Souvent, Dieu passe après, n'est-ce pas ? Alors, je voudrais vous lancer un défi sur une semaine. Prenez une feuille, vous faites deux colonnes. À gauche, vous notez tout le temps que vous passez sur Facebook, Instagram, tous ces trucs-là. Le temps que tu passes au cinéma, le temps que tu regardes, le temps que tu passes à regarder des émissions télé sans intérêt, des séries sur Netflix, etc. Et puis dans l'autre colonne, la colonne de droite, tu notes tout le temps de ta semaine que tu passes seul avec Dieu. Et à la fin de la semaine, tu compares. Dieu ne demande pas d'occuper tout notre espace. Il veut juste un petit peu de temps. Par exemple, lire un psaume tous les jours, le 1, puis demain le 2, puis après demain le 3, ça va te demander un effort, 3 à 4 minutes par jour. Mais combien ça va éclairer ta journée ? Alors j'arrive à ma conclusion. Alors j'ai conscience de vous avoir un peu malmené ce matin, mais ce n'était pas le but. Le but, c'est notre croissance et que tous ensemble, nous grandissions en maturité. J'ai des domaines de paresse sélective à régler moi-même. Si, si. Je suis moi-même très capable de remettre tout un tas de choses à demain, alors qu'elles auraient besoin que je le fasse aujourd'hui. Je suis aussi très fort pour me trouver des excuses bidons pour ne pas m'y mettre. La fourmi des proverbes nous instruit avec sa petite voix qui couine. Je ne vais pas vous la refaire. Pour ma conclusion, je voudrais rendre hommage à quelques personnes. Pour commencer, il y a un personnage fascinant à la fin du livre des Proverbes, au chapitre 31. Durant les 30 premiers chapitres, le paresseux est montré en contre-exemple, 17 fois comme je vous l'ai dit. Et le livre des Proverbes ne trouve rien de mieux que de terminer par l'exemple d'une femme qui travaille dans l'aube à la nuit, qui est intelligente, créative, femme d'affaires, mère nourricière, marchande de vêtements, négociatrice de terrains agricoles, généreuse avec les pauvres, etc. Elle savoure toute son activité qui lui rapporte et rapporte à son entourage. Quel bel exemple donne ce livre des Proverbes. Le paresseux est supplanté par la femme de Proverbe 31. Félicitations à elle. Elle ressemble à cette cananéenne syrophénicienne qui ne lâche rien pour trouver une solution à la maladie de sa fille. Vous vous rappelez, c'est Marie qui nous en a parlé dimanche dernier. Réécoutez sur Internet cette excellente prédication. La femme de Proverbe 31 ressemble fortement aussi à cette femme qui a failli être expulsée de France. Marie nous a raconté une partie de sa vie, la dureté de l'administration française qui perd 4 fois son dossier. Cette femme qui vit dans le dénuement le plus total avec ses enfants. Et devinez ce qu'elle décide ? Elle décide de s'engager comme bénévole dans une association d'entraide. Quel exemple édifiant, digne de la femme de Proverbe 31. Si vous ne connaissez pas la vie de cette femme, écoutez la prédication de Marie. Alors en dernière minute, je voudrais rendre un hommage à une personne qui n'a pas hésité un seul instant, qui n'a jamais fait preuve de paresse dans sa mission. Je parle de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Imaginez qu'il se soit dit un seul instant, « Bon, et si je remettais ma venue sur la terre à demain ? Et si on décalait d'un ou deux jours juste ce jeudi soir de mon arrestation dans le jardin des Oliviers ?» Imaginez un seul instant qu'il ait trouvé des excuses bidons pour échapper à la crucifixion le vendredi matin. Je vous choque peut-être, mais lui n'a jamais rien remis à plus tard. Il ne s'est jamais permis de faire de la paresse sélective. C'est aussi pour cela que Dieu nous appelle à lui ressembler. Amen.
Merci beaucoup, Loïc. Merci pour cette série sur les Proverbes, qui est passionnante, parce que Dieu s'intéresse à notre vie quotidienne, et ce livre des Proverbes nous parle de notre vie de tous les jours, et pas seulement le dimanche matin. Alors, la transition, Loïc l'a déjà faite, et si vous avez été interpellé en disant « bah oui, c'est vrai, j'ai une paresse sélective, etc. », il y a une solution. Ne partez pas en vous disant « ouais, je suis vraiment nul ». Non, vous n'êtes pas nul. En tout cas, vous avez la possibilité de venir à Dieu en disant « moi, je suis paresseux, mais donne-moi ton caractère. Moi, j'ai tel défaut, mais change-moi. Moi, j'ai telle situation, change-la. » C'est pour cela qu'il est venu sur la croix, qu'il est venu sur la terre. Pour ça qu'il est mort. Afin de lui donner, qu'il nous donne sa vie, qu'il nous donne son caractère, ses qualités. Et que nous puissions dire, comme a dit Paul, que le faire et le vouloir soient en moi. Que le faire et le vouloir de Dieu soient en moi. Ouais, on a plein de